Le vendredi 5 avril se tenait dans 4 collèges du département l'action École morte, à l'appel de grève de la FCPE et du FNSU. Cette action fait suite aux annonces gouvernementales avec la modification des programmes scolaires et surtout la création de groupes de niveau qui, pour les grévistes, sont une catastrophe pour l'égalité, l'enseignement et la mixité sociale. Fréquence Mistral a suivi au micro de Léa Longo la manifestation rassemblant parents, professeurs, élèves devant le collège Henri Laugier de Fort-Calquier.
L'argent public pour l'école publique!
L'argent public pour l'école publique! L'argent public pour l'école publique! L'argent public pour l'école publique!
Les groupes de niveau, aucun niveau!
Lecture de la lettre ouverte suite à cette grève.
Nous, parents d'élèves et professeurs du collège Henri Laugier de Fort-Calquier, tenons à manifester notre opposition face à la dégradation constante des conditions d'études et de travail de nos enfants, de nos élèves, résultant des politiques en matière d'éducation depuis plusieurs années. Les collèges morts, qui se déroulent dans de nombreux collèges de France, sont initiés par les parents et soutenus par la Fédération nationale des parents d'élèves, la FCPE. C'est une action de contestation contre la réforme du choc des savoirs que nous avons menée avec succès ce vendredi 5 avril, puisque 96% des élèves étaient absents. À la rentrée prochaine, des groupes de niveau vont se mettre en place pour les 6e et les 5e, suite à une évaluation des enfants. L'année suivante, ce sont tous les niveaux du collège qui seront concernés. Il existe pourtant des études en sciences de l'éducation et un réel consensus scientifique qui affirme que la création de groupes de niveau a des effets délétères pour les élèves. En effet, le tri des enfants est une mesure catastrophique au regard de l'intérêt collectif, de l'intérêt personnel des enfants, qui va à l'encontre des valeurs promises par l'école publique. Mixité sociale, entraide, égalité des chances, etc. L'école doit rester le lieu où l'on peut apprendre tous ensemble. Sur le plan pédagogique, la mise en place de cette réforme sonne aussi le glas des projets de classe. Quel sera le ressenti d'un enfant qui se retrouvera dans le groupe des faibles? Quelles seront ses chances de regagner le groupe des forts? Quel sera le sort des enfants dyslexiques ou porteurs de handicap qui ont des capacités intellectuelles de suivre les groupes forts, mais qui seront condamnés par des évaluations numériques à rejoindre le groupe des faibles? Comment l'école pourra rester garante de la construction de l'estime de soi des enfants suite à cette mesure? Nous réaffirmons donc notre attachement à l'école publique pour toutes et tous et demandons que les moyens nécessaires lui soient attribués pour accompagner tous les enfants dans leur émancipation. Les parents du collège Henri Laugier de Fort-Calquier et les professeurs du collège Henri Laugier de Fort-Calquier.
Lionel Lasfargue, professeur syndiqué FNSU, quels sont les chiffres de la grève à ce jour?
Lasfargue Lionel, SNES-FSU.
Alors, on a fait collège mort. Nous, c'est 96% de parents qui nous soutiennent. À Châteauroux, c'est 93% des parents qui les soutiennent. À Journeau, c'est 92% des parents qui nous soutiennent. Saint-Tulle, c'est 84%. Mais dans le département, c'est 91% des parents qui nous soutiennent, qui sont contre les groupes de niveau. C'est 2076 élèves qui n'ont pas été scolarisés. Si on part du principe qu'ils ont deux parents, c'est 4152 parents, des milliers de parents qui sont contre les groupes de niveau. Il va falloir qu'ils entendent là-haut.
Pourquoi dénoncer la mise en place des groupes de niveau? Pourquoi la mixité est-elle nécessaire selon vous?
Le ministère de l'Éducation nationale, avril 2023, le conseil scientifique, disant que la mixité sociale, elle est indispensable dans les classes, en avril 2023. Et qu'est-ce qu'ils nous font en avril 2024? Ils nous font des groupes homogènes, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Alors, je vous donne quand même l'avis. Ils disent que si on a de la mixité, ils disent que sur le niveau scolaire, ça n'a pas d'influence. Bon, c'est le ministère, hein. Nous, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais par contre, ils disent que la mixité, ça a des effets positifs sur le plan du bien-être personnel, du bien-être social, pour les élèves des milieux défavorisés comme pour ceux des milieux favorisés. Ils veulent détruire le collège public, c'est clair et net, et faire un cadeau au privé. C'est une histoire de sous. Ça va mettre, au bas mot avec le brevet, un quart des élèves dehors des collèges. Voilà le plan du gouvernement.
Anaïs, élève de 5e, tu es aujourd'hui présente à l'école morte avec ta maman. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Je pense que faire des groupes de niveau, ça va augmenter les discriminations. Parce qu'une personne qui est dans le groupe faible pourra se faire moquer par les gens qui sont dans des groupes de niveau fort.
Non tri !
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 Marjorie, maman d'une collégienne et membre du conseil d'administration, que constatez-vous aujourd'hui sur l'enseignement et l'accompagnement des élèves en difficulté ?
Fermeture d'une classe de 5e, alors qu'on les avait prévenus que les effectifs n'étaient pas en baisse, ils se retrouvent à 28, voilà, 29. Bon, je vous laisse déduire le reste. Pour accompagner effectivement les enfants, c'est plus difficile. Et moi, j'ai découvert, en étant membre du CA et en participant à superviser, vous voyez, les votes pour les dotations horaires, j'ai découvert qu'il n'y avait pas tant de marge que ça en termes d'horaires alloués à un établissement pour qu'ils puissent innover pour accompagner ces élèves en difficulté, éventuellement, en plus des heures de cours. Parce que moi, je suis désolée, en tant que parent, quand on veut accompagner un élève qui a besoin, s'il a le même nombre de cours qu'un élève qui s'en sort très bien, il n'y a pas de miracle, à moins qu'on ait des poudres magiques. Donc, il faut lui accorder du temps. Et du temps, c'est des horaires d'enseignants. Et des horaires d'enseignants, c'est du budget. Et ce budget, il n'a jamais été pensé par l'Éducation nationale au niveau du ministère. Et ça, je trouve que c'est un manque. Voilà, si on veut vraiment aider ces enfants-là, donnons aux profs des horaires supplémentaires, payés bien sûr quand même, et ils sauront faire, parce que les professeurs, ils sont sur le terrain, ils connaissent les besoins des élèves, et ils seront capables d'innover en fonction des territoires de manière géniale. Si on donnait les moyens aux professeurs, nos enfants, ils seraient bien accompagnés. Mais on ne leur donne pas de moyens, et on leur pond des réformes, je pense qu'ils vont tout briser. Voilà, moi c'est mon opinion de parent.
Vous vous opposez au tri par une évaluation unique. Pourquoi ?
Parce que baser la classification de la population sur 3 exercices, ou 4, allez, sur une semaine dans la vie d'un enfant, quand l'ampleur des erreurs qui vont être commises avec de telles procédures. On est effectivement choqué par les valeurs sous-jacentes, mais on n'envisage pas tous les couacs qui vont s'en suivre, avec bien entendu, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, des victimes.
Pourquoi la mixité est-elle nécessaire ?
Si l'école publique n'est pas le lieu où on rencontre la différence, où on fait avec la différence, où on apprend la tolérance, à quel endroit de la société ça va se faire en fait ?
Il n'y a pas seulement les groupes de niveau. Quelles sont les autres réformes qui vous inquiètent aujourd'hui ?
Se dire aussi qu'en même temps, pour être bien sûr d'être bien muselé et de bien comprendre que la réforme, c'est de mettre les enfants au pas, il y a en même temps la réforme des programmes et en même temps la réforme de l'orientation vers le pro dès la 5e. Donc, et ça c'est très important de comprendre que là on se bat contre ce tri des enfants dès la 6e, mais en fait on se bat contre un système qui veut museler, fermer l'esprit critique et utiliser les citoyens, non pas en faire des citoyens libres et autonomes et responsables, mais en faire des moutons.
Vous êtes enseignante de français. Quelles sont les conséquences concrètes que vous constatez aujourd'hui dans la répartition des heures de cours ?
Donner des moyens aux enseignants, oui, mais c'est surtout donner des moyens aux élèves. Parce que, à l'occasion de cette nouvelle réforme, en fait, on perd une heure d'enseignement. Rappelons-nous un petit peu. Il y a 2 ans, les élèves de 6e avaient 4h30 en français par semaine et 1 heure en techno. Bon, il y a 20 ans, ils avaient 6 heures de français. Fermons la parenthèse. L'année dernière, l'heure de techno a été supprimée en expliquant que c'était super positif pour les maths et le français puisque les élèves de 6e allaient bénéficier d'une heure supplémentaire. Il se trouve que l'année prochaine, avec cette réforme des savoirs, choc des savoirs, les élèves repassent à 4h30. Donc, ils ne sont plus à 5h30, ils perdent 1 heure en français et en maths. Le calcul est simple, il est limpide, c'est une question d'économie de moyens. pas d'objectif, ni de bien-être, ni de savoir, ni de savoir-être, ni de savoir-faire. Mais notamment sur l'éducation artistique et culturelle. Comment faire une sortie classe au cinéma, au théâtre? Comment rencontrer un artiste avec un groupe classe quand il n'y a plus de groupe classe? Comment être professeur principal d'une classe quand on n'a pas tous les élèves? Comment organiser un projet pédagogique d'éducation artistique et culturelle quand on n'a pas un groupe classe? C'est déjà compliqué quand on a ce groupe classe pour voir avec les collègues, pour voir dans l'emploi du temps, mais là, ça sera juste impossible. Donc ça aussi, ça veut dire remettre en question le rôle de la culture dans le vivre ensemble.
Vous êtes professeur de sport et syndiqué. En quoi cette réforme du choc des savoirs va compliquer vos enseignements et votre organisation ?
D'un point de vue pédagogique, quand on est enseignant, en fait, on a la liberté de pouvoir faire les modes de groupement qui nous semblent les plus ajustés pour que nos élèves apprennent. C'est-à-dire que sur plusieurs heures de cours consécutives, on va parfois faire des groupes de besoins, parfois on va faire des groupes affinitaires, parfois aussi, pourquoi pas, on va les mettre par niveau. Mais tout ça à l'intérieur de la même classe et on va constamment ajuster nos groupes en fonction de ce qui nous semble le mieux pour nos élèves. Et là, avec cette réforme, on nous retire cette liberté-là, comme si il y avait une recette magique en éducation et qu'il suffisait de répartir les élèves par niveau pour qu'ils réussissent. Pour être sur le terrain tous les jours, on sait bien que ce n'est pas le cas et on sait bien qu'un élève qui a plus de compétences qu'un autre peut être un vrai levier, un vrai soutien pour son camarade qui a plus de difficultés. On les fait régulièrement travailler ensemble, en EPS comme dans les autres matières. Et vraiment, je pense que toute la communauté éducative, les parents et les enseignants du collège de Fort-Calquier sont dramatisés par cette réforme qui nous retire cette liberté pédagogique et qui nous condamne à une seule forme de groupement dont on sait qu'elle est sclérosante pour les enfants, a fortiori ceux qui réussissent le moins. Et ce groupe de niveau faible, en fait, il va regrouper l'ensemble des élèves qui sont en difficulté, l'ensemble des élèves qui ont des dispositifs particuliers parce que malheureusement ils sont dyslexiques par exemple, parce que malheureusement ils ont un handicap, parce que malheureusement ils n'ont pas baigné dans un milieu, ils ont besoin d'être mélangés, de mixité, d'apprendre tous ensemble, et c'est comme ça qu'on fait société, qu'on fait communauté.
Anne-Marie, vous êtes mère d'un lycéen mais aussi professeure de maths au collège. En quoi cette réforme s'oppose profondément à vos valeurs et à votre façon d'enseigner ?
Mon fils est au lycée, donc on pourrait dire, vu de loin, on ne sera pas concerné. Mais de toute façon, collectivement, on se sent concerné parce que c'est la société française entière qui est concernée. Et on est prof, hein, et moi j'ai l'impression qu'à la rentrée, je ne vais plus faire le même métier. Moi, je n'ai pas choisi ce métier pour me dire, là, il y a un groupe d'élèves fragiles, là, un groupe d'élèves moyens, là, un groupe d'élèves forts. Pas du tout. J'ai choisi ce métier pour faire vivre les élèves ensemble et déployer tout ce qui est possible au niveau pédagogique pour faire corps au niveau de la classe. Ce qui me fait aussi très, très peur au niveau, je suis prof de maths, hein. J'ai vu ce qui allait être fait sur les trois groupes. Sur quelque chose d'aussi concret que les fractions. Le groupe le plus fragile, quand il sera en cinquième, il fera des fractions niveau sixième. Celui qui sera le groupe moyen fera des fractions niveau cinquième. Et ceux qui seront dans le groupe des meilleurs, fractions niveau début de quatrième. On nous fait croire que les élèves du groupe fragile vont pouvoir changer de groupe. Mais comment ? Si ça n'a pas été traité de façon partagée, le contenu, après je ne dis pas la façon de faire. La façon de faire, c'est à nous de nous adapter à notre public. Mais si déjà le contenu n'est pas le même, comment voulez-vous qu'un élève fragile puisse changer de groupe ? Donc ça, ce n'est pas du tout rassurant parce qu'on se dit, quelque part, on a l'impression qu'on condamne ce groupe d'élèves, même s'ils vont progresser par ailleurs. Mais on va leur faire croire tu peux changer de groupe. Et qu'est-ce qu'ils font après quand ils ont changé de groupe ?
Le modèle à l'américaine qui va creuser les inégalités.
Mais c'est ça. Et ce qui est triste, c'est que les politiques le vendent très bien quand on les écoute. Et ils font croire le contraire. Donc nous, quand on le voit de notre point de vue, on se les maths, c'est une matière cumulative. On se dit, Mais quelle hypocrisie ! J'ose utiliser le mot, c'est de l'hypocrisie totale. Et du coup, ça ne veut pas dire que dans chaque groupe, je n'aurais pas envie de donner tout mon cœur pour enseigner. C'est juste que je n'ai pas envie de condamner des élèves d'un groupe par rapport à un autre. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé de façon très collective, hein, quand même.
Oui, c'est intéressant d'avoir votre point de vue, en fait, aussi bien au niveau... vous êtes professeur et vous êtes parent en même temps.
Et on est aussi parents.
Donc, du coup, ça vous met des deux côtés de...
C'est ça. Et puis, un dernier détail, on l'a déjà dit, mais si on veut vraiment apporter plus aux élèves qui sont fragiles, en faisant le même contenu, mais en adaptant des pratiques différentes, il faut leur donner plus d'heures. Mais vraiment, ne serait-ce qu'une heure de plus. On l'a dit tout à l'heure, comment voulez-vous qu'ils puissent changer de groupe si les autres ont travaillé avec beaucoup plus de contenu ?
Donc là, le Collège Mort a très bien fonctionné aujourd'hui oui. sur les quatre collèges. Il y a eu plus de 90% d'absentéisme. Quel futur voyez-vous pour cette mobilisation ? Qu'espérez-vous ? Quelle retombée et quel futur pour ces mobilisations ?
On espère que la prise de conscience va continuer et que de toute façon, même si après il y aura des vacances... On le sait, il y a trois zones hein, au niveau de la France, mais on espère que malgré ça, tout le monde va continuer à être dans la lutte. Bien sûr, professeurs avec les parents. Et puis, un autre détail, c'est que parfois, les parents des élèves qui sont très à l'aise se disent « Enfin, mon enfant ne va plus être freiné par les élèves qui sont en difficulté. » Sauf que on est dans un groupe fort. À un moment donné, se retrouver aussi le moins bon, on va dire, du groupe fort. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Comment ça va être perçu aussi, tout ça ?
Ça, en fait, le fait de faire des groupes de niveau, c'est d'un côté renforcer le sentiment d'échec chez les enfants. Le risque ?
Le risque aussi de stress, je pense, parce qu'ils vont se dire, bon, on est pour qu'ils travaillent, c'est pas le souci, mais pas avec une pression démesurée, parce que ça va surajouter du stress au stress. Ceux qui se sentiront fragiles, si un jour ils découvrent qu'ils ne peuvent plus changer de groupe, c'est une catastrophe. Et ceux qui sont forts, ou même moyens, qu'on dit ben « là, il faut que tu changes de groupe parce que ça ne va pas », quelle perception ils vont avoir de tout ça aussi. Par rapport au choc des savoirs, sous prétexte soi-disant de faire en sorte d'aider les élèves, etc., ce qui met quand même aussi le doute encore plus profondément, au cas où on n'aurait pas déjà des doutes, c'est que, en fait, les collèges privés ne seront pas obligés de mettre en place ce choc des savoirs. Ça mérite de se poser une grande question.